bizarre. Et on dispose. Mais j'accorde la raison.
Ceci pour mettre une petite parenthèse de mise au point. Je reviens au déroulement du récit. Je reviens au déroulement du récit pour dire ceci. C'est que, dans la pensée d'Isaac, au moment de la bénédiction, c'était un Jacob qui avait les mains des Aïe, puisque Rebecca l'avait déguisé avec des pots de chevaux. Vous vous rappelez ça? Ça devait être la fabrique de ganterie juive. Et puis, alors que dans la réalité, c'était un... qu'est-ce que j'ai dit? Dans la pensée d'Isaac, c'était un Ésaü qui parlait comme Jacob. Il croyait que c'était Ésaü, il entend la voix de Jacob. Akol, kol Yaakov, Aïvaï, Miles. Alors que dans la réalité, c'était l'inverse. C'était un Jacob qui avait les mains d'Ésaü. Et alors, c'est là que j'en viens au verset que vous avez cité. Lorsqu'il s'aperçoit de cela, il est pris de Vayeherat, Harada, Gedola. Isaac est pris de terreur. Pourquoi? Parce que deux personnages faux apparaissent dans cette scène. Indépendamment d'un Jacob, puisque Jacob, et d'un Ésaü, qui serait un Ésaü, deux personnages faux apparaissent. Un personnage qui serait Jacob avec la voix de Jacob, mais les mains d'Ésaü. Et un personnage qui serait Ésaü avec les mains d'Ésaü, mais la voix de Jacob. Et c'est à partir de là que, typologiquement, la tradition juive va attribuer à l'Église chrétienne romaine l'identification de ce deuxième Ésaü, celui qui a les mains. Sur ces interpellations de l'Église, entre ceux qui ne sont pas d'identité hébraïque, mais qui se réclament du nom d'Israël, et d'autre part, ceux qui restent fidèles à l'identité hébraïque d'Israël, même lorsqu'elle est en clandestinité dans l'identité de l'Église, et c'est l'identité juive et corse de l'identité hébraïque, je veux dire, mais ça précise ce que ça se redévoile aujourd'hui, que le juif se lève aujourd'hui. Eh bien, elle s'est incarnée historiquement de façon très peu. Voilà pourquoi je crois que, après notre rencontre de miracle, parce que je vous l'ai dit, je pensais que le père Moutine sera ce soir avec nous, je veux dire qu'en réalité, on s'est jamais rencontrés pendant le miracle. On a fait semblant. Il est très important que cette rencontre se fasse avec les gens.
Sur le thème, la leçon d'Abraham, monothéisme et polythéisme, où réside la différence? À cette table ronde participeront M. Christian de la Campagne, M. Shmuel Trigano, M. Dufour, qui a fait la présentation du premier, la première séance du séminaire, M. Roger Dufour, et également M. Léon Ashkenazi, qui est donc empêché, mais qui sera donc un peu plus tard parmi nous, et éventuellement le révérend père Bernard Dupuis, qui a demandé de l'excuser, étant donné qu'il sera aussi vraisemblablement en retard, étant donné ses multiples activités en tant que responsable des relations judéo-chrétiennes en France. Et maintenant, je laisse la parole au professeur Raphaël Drahi, qui présentera le sujet.
Mais écoutez, je vous avoue que c'est une présentation tout à fait improvisée. Alors elle aura les défauts et les qualités de l'improvisation. Et d'ores et déjà, pour me prévenir des défauts, je voudrais vous présenter un peu plus amplement les partenaires de cette table ronde, étant bien entendu que vous êtes aussi les principaux partenaires de cette table ronde. Shmuel Trigano, vous connaissez son itinéraire philosophique et ses principales publications, y compris le récit de la disparue et la nouvelle question juive. Christian de la Campagne a un champ de réflexion autrement centré, mais qui peut se rejoindre avec le précédent sous la condition d'un dialogue en profondeur. Il est l'auteur de l'Antipsychiatrie, paru chez Grasset, de Figure de l'oppression, paru au PUF, et de Philosophée, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Roger Dufour, on peut le qualifier aussi de chercheur pluridisciplinaire, dans la mesure où sa discipline principale, c'est la psychologie, et notamment la psychologie clinique. Il est un des principaux animateurs du groupe du rêve éveillé et dirigé, qui est une spécialité que je vous recommande d'explorer si vous en avez la possibilité. Mais en outre, il essaye de faire le lien entre la psychologie clinique, le langage, le poétique et la pensée juive. Léon Ashkenazi, je n'ai pas besoin de vous le présenter. il se présente de soi, n'est-ce pas, en attendant tout à l'heure de prendre directement la parole. Alors, que vous dire dans une improvisation de ce thème? Nous en parlions tout à l'heure pour dire à quel point il était à la fois intéressant et difficile. Il est intéressant parce que, à partir de ces éléments théologiques, d'autres diront mythologiques, en tout cas probablement philosophiques, à un autre degré de la réflexion, il pose la question des rapports entre le mono et le poly, entre l'unique et le pluriel, entre l'unité et la totalité, d'autres diront entre la diversité et le totalitarisme. Et à ce titre, il s'insère dans un débat tout à fait actuel sur ces éléments et sur ces valeurs, et on aura l'occasion tout à l'heure d'expliciter les termes et la portée de ce débat. Je voudrais donc commencer directement cette table ronde, qui est une table, vous le voyez, tout à fait rectangulaire, par l'intervention de Shmuel Trigano, qui va probablement développer cette, employer un mot un peu galvaudé, cette dialectique du mono et du poly dans ses variantes polythéiste et monothéiste.
Je voudrais faire quelques petites remarques préliminaires. Personnellement, je me sens très mal à l'aise dans ces concepts. Je n'arrive pas à en saisir le sens, ils sont peut-être trop abstraits. Je crois surtout que ce sont des notions qui se sont constituées durant le 19e siècle, notamment dans l'œuvre d'hommes, à travers l'œuvre d'hommes comme Renan et d'autres de cette école. Ces concepts, je ne les sens pas et je ne vois pas leur correspondant exact dans la langue hébraïque. De plus, ces concepts, comme on vous l'a rappelé, ont une réalité tout à fait contemporaine. Et comme vous le savez, la discussion qu'on pourrait avoir ce soir prend place dans un cadre bien précis. Alors je crois qu'il faut faire cette réserve au départ, à savoir qu'il faut être quand même sérieux et se rendre compte qu'on n'est pas sur le point de rouvrir les temples d'Apollon et d'Athéna dans l'Occident d'aujourd'hui, et qu'il ne s'agit pas de tomber dans ce piège un peu pervers qui consiste à prendre véritablement au sérieux ces discussions théoriques comme s'il s'agissait de quelque chose de décisif et de déterminant aujourd'hui, sans nous rendre compte de la dimension politique, strictement politique, se trame derrière ce recours à des concepts un peu surannés. En plus, je crois qu'il faut essayer de préciser qu'il ne faut pas saisir enfin, ce qui se cacherait derrière ces deux notions comme les figures de deux races d'hommes irréductibles. Comme on l'a certainement rappelé ici, Abraham lui-même vient d'une culture polythéiste et les Hébreux eux-mêmes ont eu souvent des tentations de retour à l'idolâtrie et au polythéisme. Ceci dit, ce qui me semble être une différence fondamentale entre ces deux systèmes du monde, c'est la liberté, c'est la notion de liberté. Je crois que, contrairement aux allégations des nouveaux polythéistes que nous connaissons aujourd'hui, le monde idolâtre, le monde du polythéisme, n'a pas été un havre de paix sereine, n'a pas été un monde où le respect de l'homme se serait constitué en fonction de ce pluricentrisme qu'aurait été le polythéisme par rapport à cette sorte de jacobinisme culturel et politique que serait le monothéisme. Au contraire, la multiplicité des références divines n'a pas favorisé, à ce qu'il me semble, le pluralisme. Très souvent, ces gigantesques empires de pierre qui ont été l'incidence de ce polythéisme, ont fondé un monde de violence et de conquête. dont, avec une récurrence extraordinaire, Israël a été régulièrement victime. Tandis que la référence singulière, spécifique au divin, telle qu'elle s'est faite dans le monde hébraïque, me semble avoir fondé, sauf deux expériences historiques, reconnaissons-le, lors de la conquête de Canaan, mais enfin tout ceci prend place dans une problématique intérieure au texte, et lors de la conversion forcée par Alexander Yanai, un Asmonéen, la conversion forcée des tribus arabes du Negev, dont sera issu le roi Hérode. La conscience hébraïque, donc, me semble avoir fondé les bases minimales du respect du prochain. Le critère discriminant de cette différence entre le monothéisme et le polythéisme me semble être l'idée de création, à savoir une idée qui opère une différence, une différenciation entre le créateur et la créature, de telle sorte que cette différenciation ouvre vers le haut un espace entre l'homme et Dieu, et vers le bas un espace également entre l'homme et la nature. Cette liberté, elle a été d'abord évidemment une liberté par rapport au déterminisme et au déterminisme naturel. Vous savez que la façon dont on appelle le polythéisme ou l'idolâtre dans le Talmud, c'est en abréviation Akum, c'est-à-dire ceux qui rendent un culte aux étoiles et aux planètes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, qui rendre un culte en somme au mouvement du déterminisme naturel. Vous connaissez aussi sans doute ce midrash, peut-être qu'on vous l'a rappelé, du petit Abraham que la mère avait caché dans une grotte pour échapper à la persécution du roi Némrod, et qui est évidemment un génie et qui par l'ouverture de la grotte voit sans cesse les étoiles apparaître, puis la lune, ensuite le soleil, et au fur et à mesure il se fait de cette nouvelle apparition un dieu. Et comme il est philosophe, il arrive au bout de la journée, il se dit, mais en fait, aucun de ces éléments de la nature n'est divin, seul est Dieu, celui qui met en marche tout ce mouvement naturel. Une liberté donc par rapport à la nature, une liberté par rapport, une liberté de type politique. Toujours le Midrash qui nous raconte que la situation qui voit débuter l'aventure d'Abraham est une situation de type politique, puisque la dissidence, entre guillemets, la dissidence spirituelle et religieuse d'Abraham provoque l'ire du roi Némrod et la répression, une répression gigantesque, puisqu'il décide du premier camp de concentration de l'histoire. Il enferme toutes les femmes enceintes, puisque ces mages lui ont annoncé la naissance d'un homme qui mettra en danger son pouvoir. Il fait enfermer toutes les femmes enceintes dans une ziggourate. Celle qui accouche d'une fille, on la renvoie à combler de présents. Celle qui accouche d'un garçon, on supprime le garçon et on la rejette au dehors. Donc une liberté politique. Une liberté également, me semble-t-il, par rapport à la divinité. À savoir que dans l'expérience d'Abraham, il y a une marche vers l'inconnu, une sorte de don gratuit, si vous voulez, de sa personne, et de don dans cette expérience encore inédite. Mais cette liberté essentielle est aussi celle du prochain. Parce que cette différenciation de Dieu et de sa créature fonde, à mon sens, le champ d'une différence où peut habiter le prochain. Si vous voulez, ce qui explique pourquoi, dans la conscience juive et dans l'enseignement de Hillel, par exemple, le prochain est toujours en Dieu. Selon nos textes, il y a trois situations dans lesquelles un juif doit préférer la mort. Lorsqu'il est contraint à l'idolâtrie, lorsqu'il est contraint à l'inceste ou à l'adultère, et lorsqu'il est contraint à l'assassinat. Je crois que l'on trouve ici, à mon sens, l'essentiel de la conception hébraïque concernant le polythéisme, ou le bouddhisme de la crue, à savoir la négation du lieu du prochain. L'idole, d'abord, l'idolâtrie. L'idole, l'image, qu'est-elle d'autre, sinon le subterfuge par lequel on va représenter l'autre, la divinité, et bien sûr la divinité, le prochain, etc., à travers une image, une réalité figée. L'inceste et l'adultère, que sont-elles d'autre, sinon la négation de la séparation qui fait l'homme, à savoir autant la naissance que l'union. Et il y a, à travers le texte biblique, comme un symbole à propos de cette séparation de la naissance et de l'union, vous savez qu'une grande divinité cananéenne, c'était la divinité du Moloch, le Moloch en français. Et cette divinité était très friande d'enfants, de jeunes enfants, que l'on sacrifiait. Les Romains rapportent même que c'était une divinité commune à tous les peuples cananéens. Les Romains rapportent même que les Phéniciens, au moment du siège de Carthage, avaient décimé la fine fleur de la jeunesse noble en sacrifice à cette idole monstrueuse qui était une idole creuse dans laquelle brûlait un feu perpétuel et à travers la bouche de laquelle on jetait les enfants. Donc on retrouve dans le texte biblique cette notion, comment est-ce qu'on définit l'idolâtrie, comme faire passer les enfants par le feu. Ça fait référence à cette idole. L'assassinat, évidemment, troisième dimension, parfois on supprime purement et simplement le prochain. Je crois qu'il y a une équivalence symbolique entre ces trois dimensions, l'idolâtrie, l'inceste ou l'adultère et l'assassinat. Comme vous l'avez sûrement étudié durant ce séminaire, Abraham les a rencontrés, évidemment, que ce soit déjà à Ur, avec sa fameuse histoire, ce fameux midrash des idoles qu'on avait rappelé il y a deux soirs. L'inceste et l'adultère, tant du côté de Pharaon que du côté d'Abimélec. L'assassinat, évidemment, sur lui-même, avec cette fameuse histoire de la suppression des garçons, des enfants mâles d'Israël. Ceci dit, il faut comprendre que d'Abraham au polythéisme ou à l'idolâtre, ce n'est pas toujours le fameux principe négateur de la Révolution française, à savoir guerre à la guerre, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Je crois que plutôt c'est une sorte de patience souffrante, à l'égard de l'idolâtre, souffrante mais aussi vigoureuse, je crois qu'il faut le signaler, parce qu'en fait, dans cette expérience de l'idolâtrie, la conscience hébraïque me semble ressentir comme une expérience fatale, une expérience tragique. Quand on appelle l'idolâtrie Avodah Zarah, c'est-à-dire le travail ou le culte étrange ou étranger, et quand on appelle et quand on fait une comparaison entre le meurtri, l'étranger et l'idolâtre, et cette même racine en hébreu moderne donne, c'est sur cette même racine qu'on forme le concept d'aliénation, nikur, itnakrut, l'aliénation, je crois que là, il y a un sens profond, à savoir que le choix de l'idolâtre, le choix du polythéisme est un choix, mais c'est un choix dans lequel il ne s'appartient pas. Évidemment, il faut rappeler tout le comportement d'Abraham vis-à-vis de Sodome et Gomorre, vis-à-vis d'autres exemples symboliques. Je crois que là, il y a une dimension fondamentale qui n'est pas la dimension du mépris ou du combat aveugle. Parce qu'il ne faut pas oublier également qu'il y a dans tout le Talmud toute une perspective où il y a une reconnaissance de la possibilité de justice, de vérité minimale dans le monde idolâtre. C'est les fameuses sept lois de Noé qui font que si un païen les observe, il a droit au monde à venir. Et la septième loi de Noé, précisément, oblige de fonder un système de loi et un système juridique, c'est-à-dire un système où l'on juge, où l'on fait la part de chacun, pour séparer les uns des autres, évidemment, de la mort et de leur propre mort. Je terminerai là-dessus. Dans cette perspective, je crois qu'il faut donc rappeler, pour présider au débat sur ce thème, que dans la conscience hébraïque, tout homme, tous les hommes, est la créature de Dieu.
Yeah. Nous remercions vivement Shmuel Trigano. Je crois que vous avez souhaité parler en dernier lieu. Alors, puisqu'il a été question de création et de créativité, nous allons passer peut-être du domaine de la théologie, de la philosophie, à celui du lien entre ces plans et peut-être la psychologie, à moins que tu adoptes une stratégie complètement différente, ce dont tu es libre, absolument.
Je vais me placer au point qui d'ailleurs a été inauguré par Shmuel Trigano dans son premier exposé, il y a quelques jours, c'est-à-dire dans une rencontre, je dirais, de la pensée traditionnelle et de notre expérience vécue de l'existentiel. Et on a bien perçu dans sa conférence qu'il ne voulait pas brûler les étapes, ni sortir du vécu, parce que ce serait facile de se réfugier dans le notionnel simplement. Alors je vais me placer en ce lieu-là, où on est écartelé, entre la nuit des incertitudes dans lesquelles nous sommes dans le vécu, et d'autre part, tant de clarté qu'il y a dans les écrits, et sur cette question en particulier. Donc, voilà une première situation du problème, et je pense que pour cette question aussi du monothéisme et du polythéisme, il y a une autre question qui est sous-jacente. J'avais souligné, c'est la question des filiations. Je vais y revenir en me demandant pourquoi. Et aussi la question de la détresse. C'est-à-dire, il y en a qui s'accommodent bien de ne pas avoir ce pôle auquel nous nous référons. Et je repense au début du chapitre, du 51e chapitre d'Isaïe, où il dit, et les prophètes ont souvent ce schéma-là, dans les périodes de détresse, Isaïe dit, en ce moment-là, regardez Abraham, quand vous êtes donc perdu ou dans la souffrance, dans l'incertitude, comme Israël maintenant au milieu des nations, ou lorsque peut-être les Israéliens vont se diviser, vont se battre, ou entre eux ou contre d'autres, dans la problématique de fraternité, il dit, regardez Abraham, le rocher d'où vous avez été taillé, et le puits d'où vous avez été tiré. Vous voyez ? Il y a donc Abraham sur ce pôle-là, mais ce pôle même qui est proposé à notre compréhension, à notre référence, il est double. Et je dirais peut-être même que sur un plan psychologique, il a une polarité peut-être plus masculine dans le rocher, et peut-être plus féminine dans le puits, au niveau des symboles, enfin de la vie des symboles. Peut-être aussi, enfin, je pense en disant ça, au titre de Laplan, dans son livre, Entre le cristal et la fumée, vivant dans cette division, cette incertitude, ce flou entre le cristal et la fumée, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau du cosmos, le prophète dit, lui, le prophète qui voit, il dit, regardez Abraham. Et c'est pour ça que nous regardons ce thème. En fait, je pense que si je le prends du point de vue psychologique, cette problématique du monothéisme par rapport au polythéisme, nous le retrouvons sur le plan psychologique dans l'essai que nous essayons de faire de nous rendre nous-mêmes un. C'est une sorte de projection, si vous voulez. Dans quel sens se fait la projection? Est-ce que c'est à partir de la révélation pour nous représenter nous-mêmes en tant qu'être un, ou est-ce que c'est dans l'autre sens? Beaucoup de psychologues disent que le polythéisme ou le monothéisme n'est qu'une projection de ce qui se passe en nous. Je veux dire par là que nous n'arrivons pas à comprendre fondamentalement comment nous avons pu venir de deux êtres. C'est une chose incompréhensible au niveau du vécu. L'enfant qui commence à prendre un peu conscience de lui, il se rend compte qu'il vient de deux personnes. Ça, c'est une histoire de fou. Et tout au long de sa vie, on essaye de résoudre ce problème-là. Comment un peut venir de deux? Et Lévi-Strauss a analysé ça de façon extrêmement importante dans les mythes de nombreuses peuplades. Nous trouvons ensuite, l'enfant essaye de se distinguer de cette fusion, et puis de se personnaliser, de s'individualiser. Mais il le fait à travers le jeu des identifications, en s'identifiant plus à l'un, à l'autre. Il y a tout le jeu de la bisexualité que nous avons aussi. Nous avons une part masculine, une part féminine en nous. Et tout le temps qu'il faut pour essayer de voir clair là-dedans. D'autant plus qu'ensuite, nous avons besoin de nous mettre en liaison avec un être d'un autre sexe qui lui aussi est double d'une certaine façon. Donc pour parvenir à être nous-mêmes dans une certaine unité, ce qui est indispensable même pour le confort, savoir où on en est, ça n'est pas facile du tout. Bon, et on comprend, enfin, quand on traverse, chaque année nous vivons cela, et quand on le vit de façon clinique, on comprend vraiment ce que veut dire le bet de Bereshit qui commence la Torah, qui indique que tout, jusqu'à la dernière des réalités, tout est double, vraiment. Il y a donc cela au début, d'un côté, dans la représentation, et ensuite, à l'autre extrême, il y a son nom sera un, Hashem Echad, il y est, il sera peut-être quand. Donc il y a cette même tension au niveau du projet de Dieu, il y a cette même tension au niveau de notre aspiration, mais là, ce n'est pas une aspiration notionnelle, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Bon, alors là, j'ouvre un problème, vous voyez, simplement, je ne le résous pas. Et je voudrais, comme le problème du monothéisme et du polythéisme, c'est un problème relationnel, que l'on ne crache pas trop vite sur tous les autres modes de représentation que l'humanité a essayé de faire. Beaucoup de savants disent que l'humanité a commencé par se représenter la déesse mère, et puis ensuite la refouler devant la puissance de cette déesse mère pour créer soit une multitude de dieux, soit le dieu père, soit un dieu père ou une certaine manière. L'animisme serait, ou serait-il là-dedans, mais enfin, il est dans ces modes de représentation. Et nous ne comprenons pas l'animisme parce que nous ne l'avons pas étudié dans son mode de représentation qui est très sérieux, très logique. Ça n'est pas le nôtre, mais il est très, très sérieux. De même, la représentation grecque, qui a personnifié dans des symboles, dans des dieux, et la représentation romaine, chacune de nos pulsions, et chacun des modes d'opération de nos pulsions. Alors, nous ne pouvons pas balayer ça d'un côté, mais non, c'est quand même une tentative très importante pour essayer d'y voir clair là-dedans. Et enfin, il y a tous les travaux de Raphaël Dreil, en particulier aussi de Yann Amado et Vivien Ainsi, sur la différence entre ces modes-là, au niveau de la civilisation, du politique, ces modes de représentation grecque en particulier, qui effectivement n'ont pas su situer le combat entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Le judaïsme a une politique là-dessus qu'il a élaborée. Mais enfin, les autres cultures sont dans la même problématique. Alors je crois que on ne peut pas résoudre le problème simplement par des croyances en disant, eh bien, nous avons le corpus intellectuel révélé sûr, clair, qu'il nous faudrait apprendre simplement par l'étude. Je crois que le problème, c'est pas seulement de savoir ce qu'il en est du monothéisme ou du polythéisme, c'est surtout de savoir comment faire advenir l'unité. Le nom sera un. On passera du bête à autre chose. Mais comment ? C'est là le problème. Et là, nous n'avons pas la solution, il y a les mitzvot. Peut-être, enfin, ça ne suffit pas. Enfin, je crois que nous sommes dans une situation où il faut, cela ne peut se faire que par une remise en route de la halakha. Et là, nous sommes vraiment, je dirais, vraiment démunis. Nous sommes comme des enfants abandonnés. Ceux qui savent, moi, je suis stupéfait dans le judaïsme, combien, enfin, autour de moi ou dans les communautés, combien il y a une masse de gens qui connaissent, qui savent des choses et qui ne le transmettent pas. Bon, au niveau du savoir, ils ne le transmettent pas du tout, ou très peu, parce que sous prétexte qu'il y en a toujours un autre qui sait plus et que c'est lui qu'il faut aller voir, alors on ne transmet pas aux enfants que nous sommes. Et puis lorsqu'il y en a qui essayent, ben, je vois dans nos milieux, lorsqu'il y en a qui essayent à partir de leur propre itinéraire, de leur propre chemin, de connaître et de transmettre le peu qu'ils savent, alors là on les descend en flèche, parce que ce n'est pas la tradition, parce qu'ils se trompent sur ceci, parce qu'ils ont mal lu le Talmud, parce qu'ils ne connaissent pas encore la célébrité, etc. Alors, c'est un contexte assez terrible. Puis, il ne suffit pas même de... Donc, ça, c'est un gros problème pour avancer, connaître l'étude et la transmission. Mais il y a surtout le problème de la halakha. Qui va remettre en route la halakha? On ne peut pas se contenter des mitzvot. Les mitzvot, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir les comprendre dans des problématiques, dans ces problématiques de la division à l'unité, à la fraternité aux autres, et pour ça il faut une réflexion là-dessus, une réflexion qui atteint les niveaux dont nous parlons, mais qui veut bien, à qui pouvons-nous nous adresser pour réfléchir sur le plan de l'Alaha? On veut bien aller voir un maître pour faire des calmes avec lui, mais si on essaye d'aller plus loin un peu dans la réflexion, tout le monde reporte ça sur d'autres. Et c'est là que je crois qu'il y a une fonction du judaïsme qui est assez tragique. Il ne suffit pas d'organiser une communauté, de même de remettre en route une certaine sociologie du judaïsme. Il faut qu'il y ait une pensée vivante qui fasse le lien entre ce qu'il y a dans le Tanakh et la vie dans laquelle nous sommes. Et je crois que c'est à ce niveau-là que je placerai le problème du monothéisme dans un accouchement, si on veut le formuler sur un plan féminin, dans une percée peut-être, si on veut le formuler en symbole masculin. Voilà, nous sommes dans cette aventure et c'est tout ce que je peux amener et je souhaiterais qu'on en discute.
Bien. Après ces précisions, nous allons peut-être demander à Christian de la Campagne de reprendre à sa manière ce thème dans les cadres qui lui sont propres. Et peut-être, comme nous en avons convenu, de faire un peu le point sur un débat qui a l'air d'être un débat entre érudits actuellement, mais qui a des prolongements idéologiques tout à fait certains. Et ce débat concerne la signification et la portée des travaux de Georges Dumézil sur le problème particulier du monothéisme et du polythéisme.
Oui, moi je veux dire que comme Shmuel Trigano, je ne me sens pas très à l'aise dans ces concepts, entre guillemets, dans ces notions de monothéisme et de polythéisme. Je ne m'y sens pas très à l'aise parce que j'ai le sentiment que ces notions ont été fabriquées ailleurs, par d'autres que nous, et pour servir d'alibi à des causes qui étaient gagnées d'avance, si vous voulez, qui n'étaient pas destinées à être véritablement discutées. D'ailleurs, tous les concepts de ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie des religions sont un peu des concepts mal taillés, ou trop bien taillés, c'est-à-dire taillés sur mesure et pour servir après coup de justification à des convictions préétablies. Le concept d'animisme, d'ailleurs, est lui aussi un concept mal taillé, que l'on met un petit peu à toutes les sauces, et comment faire autrement ? Je sais bien que c'est très difficile, mais par exemple, c'est une remarque tout à fait incidente et pas du tout polémique, mais est-ce qu'on peut vraiment opposer, comme vous venez de le faire, l'animisme et le monothéisme ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'animisme dans le monothéisme ? Au fond, tout simplement, quand on dit « Dieu est partout », est-ce que ça n'est pas déjà un énoncé animiste ? Bon, c'est simplement une question, mais... C'est une question qui vient simplement du fait que ces concepts me paraissent, au fond, assez mal définis. Alors, pour en revenir au débat monothéisme, je dirais d'abord, afin qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, que ça me paraît être le type même du faux débat. Je ne dis pas du débat sans intérêt, mais du faux débat du point de vue faux du point de vue philosophique, c'est-à-dire que le vrai débat n'est pas là. Qu'on se place sur le plan philosophique, politique ou religieux, le vrai débat n'est pas là. Mais il se trouve que certains ont à l'heure actuelle intérêt à faire croire que le débat est là, tout simplement. Je crois que derrière le phénomène de mode, la mode du paganisme, la mode du retour au polythéisme, la mode qui consiste à dire c'est la faute à Abraham, derrière cette mode se cachent des problèmes, d'autres problèmes, dont certains sont de vrais problèmes philosophiques, sont même de très anciens problèmes philosophiques et qui méritent tout notre intérêt. Par exemple, le problème de l'un et du multiple, de l'unité et de la diversité. Le problème du statut de l'idole. Qu'est-ce qu'une idole ? Comment définir l'idole ? Le problème du statut de la croyance, etc., etc. Avec toutes ces implications psychologiques, etc. Il y a aussi, et ceci ne doit pas être oublié, il y a aussi un aspect plus scientifique. Les théoriciens du néopaganisme ou de la nouvelle droite, comme ils s'appellent eux-mêmes, font souvent référence à un certain nombre d'œuvres d'historiens des religions qui passent pour être des œuvres scientifiques. En particulier, l'œuvre de Mircea Eliad, le grand historien roumain, grand historien des religions roumain, et l'œuvre de Georges Dumézil, consacrée à l'histoire des religions des anciens peuples indo-européens. Alors là, il y a, à mon avis, un vrai problème et un vrai débat, car l'œuvre de Dumézil est une œuvre immense, c'est une œuvre sérieuse. L'œuvre d'Eliade également, quoiqu'à mon sens, à un degré moindre. L'œuvre de Dumézil est une œuvre immense qui couvre toute l'histoire des religions des anciens peuples indo-européens, c'est-à-dire des Grecs, des Romains, des Celtes, des Germains, des Scandinaves, et aussi des anciens Iraniens et des anciens Indiens. Donc, un champ géographique qui va du centre de l'Asie à l'ouest de l'Europe. Dumézil est un historien, c'est aussi un linguiste qui travaille depuis 60 ans, il est aujourd'hui octogénaire, qui travaille depuis 60 ans sur les religions de ces anciens peuples, c'est-à-dire les religions anciennes de ces peuples-là, et sur les langues de ces peuples. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Et qu'est-ce qu'il a prouvé? Il a trouvé d'abord, et il n'est pas le premier, une parenté au plan linguistique, une parenté entre les structures des langues que parlaient autrefois les Celtes, les Germains, les Grecs, les Scandinaves, etc. Il a trouvé aussi une parenté dans certains domaines de la vision religieuse du monde. Et en particulier, il a trouvé que certains de ces peuples, et je dis bien certains mais pas tous, que certains de ces peuples partageaient une même représentation, tripartite de l'organisation sociale. Pour les anciens Celtes, les anciens Germains, les anciens Romains, les anciens Scandinaves, la société se divisait spontanément en trois catégories. La catégorie des prêtres, la catégorie des guerriers et la catégorie des travailleurs. Vous me direz, on connaît ça, c'est la division de la société sous l'ancien régime en France. Ceux qui prient, ceux qui font la guerre et le tiers-état. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Oratores, bellatores et laboratores, comme disaient les latins. Bon, c'était la vision, au fond, c'est la vision du monde de notre ancien régime. C'est la vision féodale du monde. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Indo-Européens avaient une vision du monde commune? Est-ce qu'on peut dire qu'ils partageaient un certain nombre de croyances religieuses fondamentales? Si l'on pouvait répondre oui à cette question, vous mesurez l'enjeu, ce serait très grave, parce que cela signifierait qu'au fond, les Européens actuels et les habitants du Proche-Orient, du moins iraniens et indiens, partageraient une culture commune, auraient des ancêtres communs. Et vous voyez tout de suite qu'il serait facile de transformer ces ancêtres en ancêtres raciaux. Il serait très facile de passer d'une communauté de culture à une communauté ethnique. Il serait très facile de retomber dans le mythe arien, dans le mythe de l'indo-européen arien, grand, blanc et blond, opposé au sémite, petit, brun et pensant mal. Ce serait très facile de retomber dans ces mythes-là. Et c'est effectivement la tentation qui est à l'horizon de toute cette pseudo-polémique. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, la modeste contribution que je voudrais apporter, consiste à dire tout simplement qu'il n'y a rien de tel dans l'œuvre scientifique de Dumézil. Dumézil lui-même n'est jamais allé jusqu'à ce type de conclusion. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord, une raison de principe. Dumézil est un linguiste et un historien qui s'intéresse à un certain nombre de problèmes techniques et qui ne veut pas faire d'extrapolation philosophique ou philosophico-religieuse, et encore moins raciale ou raciste. Bon, ce n'est absolument pas son problème. Il s'est d'ailleurs toujours, et c'est important, toujours désolidarisé de toutes les interprétations néo-païennes qui ont été faites de son œuvre. Et en particulier, il s'est désolidarisé de la manière la plus claire de l'idéologie de la Nouvelle Droite. Et en particulier, dans une interview qu'il a choisi d'accorder, ça n'est probablement pas un hasard, au Figaro, dans une interview qu'il a choisi d'accorder au Figaro, il y a 3 ans, il s'est explicitement désolidarisé de cette interprétation. Pour des raisons d'ordre qui tiennent, si vous voulez, à la morale scientifique. Bon, il dit, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème en tant que savant. C'est votre problème. Vous pouvez interpréter ça comme ça si vous voulez, mais moi, je n'ai jamais dit ça. Premier point. Deuxième point, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit sur le plan scientifique qui nous permette de douter de la validité des interprétations néopagaines? Eh bien, il a dit tout simplement ceci. Il y a entre les indo-européens des parentés linguistiques évidentes. Personne ne niera que le sanskrit, le grec, le romain, le celte, le germain et le scandinave aient des origines communes, ou en tout cas présentent des similitudes au niveau de la structure, de la syntaxe et du vocabulaire. Mais il n'y a pas nécessairement parenté sur le plan ethnique, culturel, social ou archéologique. Nous n'avons strictement aucune preuve qu'il y ait eu, archéologiquement parlant, nous n'avons aucune preuve archéologique qu'il y ait eu une origine commune aux Scandinaves, aux Grecs, aux Iraniens et aux Indiens. Nous ne disposons d'aucun vestige, d'aucun texte, d'aucune inscription, d'aucun document qui nous permette de penser qu'à l'origine, tous ces peuples descendent d'une même race, d'une même souche raciale. Et d'ailleurs, la notion de souche raciale, pour qui s'est intéressé un tant soit peu à l'histoire des migrations des peuples indo-européens, n'a rigoureusement aucun sens. Pourquoi ? Parce que les peuples indo-européens possédaient le cheval et ont passé des millénaires à parcourir l'Europe et l'ouest de l'Asie dans tous les sens, ont essaimé dans toutes les directions et se sont mélangés à tellement d'autres peuples que parler de souche raciale n'a rigoureusement plus aucun sens dans ce contexte-là. Alors vous me direz, il reste quand même un témoignage troublant qui est la parenté au niveau de la vision tripartite du monde. Comment se fait-il que cette structure tripartite, on la retrouve dans telle grande épopée scandinave, dans telle légende celte, dans tel poème romain et dans telle épopée hindoue? Bien, il y a un problème, c'est vrai, qui peut avoir beaucoup de solutions. On peut alléguer qu'il y a eu des phénomènes de diffusion qui ne doivent rien à une communauté ethnique, mais qui sont simplement le fait des migrations. On peut alléguer qu'il s'agit d'une simple coïncidence, après tout, pourquoi pas. Des disciples de Dumézil ont trouvé la même vision tripartite du monde dans la mythologie d'un ancien peuple du Japon. Or, il est bien clair qu'il n'y a eu aucun contact physique entre les habitants du Japon et les habitants de l'Europe 2000 ans avant notre ère. Il s'agit donc d'un pur hasard. Par ailleurs, si on s'intéresse à la mythologie grecque, et pourtant les Grecs sont bien situés en Europe, ils sont situés à égale distance des Scandinaves et des Indiens, eh bien si on s'intéresse à la mythologie grecque, on ne trouve absolument aucune trace d'idéologie tripartite dans la mythologie grecque. Le schéma qui est bon pour les Scandinaves, bon pour les Indiens, bon pour les Iraniens, bon pour les Romains, n'est plus bon pour les Grecs. Et ça, c'est un des gros problèmes de Dumézil, il n'a jamais réussi à appliquer son schéma à la mythologie grecque. Donc, il y a des exceptions, les Grecs sont la principale exception, il y a aussi des coïncidences troublantes, mais enfin qui ne peuvent pas être autre chose que le fait du hasard, comme le cas des Japonais que je citais à l'instant. On pourrait donc très bien admettre que ce système de représentation tripartite du monde s'explique par toutes sortes de causes historiques, de phénomènes de diffusion ou de migration, sans qu'il y ait jamais eu communauté d'origine, communauté ethnique ou raciale, ni même communauté d'organisation sociale. Tout ceci peut très bien s'être passé simplement sur le plan des discours, sur le plan des idéologies, et n'avoir en rien affecté la société, les sociétés indo-européennes. Nous, tout ce que nous savons, c'est que les anciens Romains et les anciens Scandinaves se représentaient la société comme divisée en trois catégories. Mais nous ne savons pas si la société était effectivement divisée en trois catégories. Ou plus exactement, s'agissant des Romains, nous savons qu'elle ne l'était pas. Nous connaissons assez bien la société romaine, nous savons qu'elle n'était pas divisée en trois catégories, même si certains textes religieux, archaïques, appartenant aux périodes les plus anciennes de l'histoire romaine, présentent des traces d'une représentation tripartite du monde. Vous voyez donc qu'il faut être très prudent, et même encore beaucoup plus nuancé que je ne l'ai été, pour essayer de démonter pièce par pièce, un petit peu comme un jeu de Mikado, l'ensemble indo-européen. Alors, je ne dis pas ça pour prétendre que les indo-européens n'ont pas existé. Les théoriciens de la Nouvelle Droite ont vite fait de taxer leurs adversaires de révisionnistes. Ils disent, au fond, vous êtes comme Faurisson veut réviser l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et vous voulez réviser l'histoire des origines indo-européennes. Vous voulez prétendre qu'il n'y a pas eu d'indo-européens. Les indo-européens n'ont pas existé. En réalité, ni Dumézil, ni aucun de ses disciples, ni aucun de ses...